60 minutes business, BFM Business avec vous.
60 minutes business, deuxième partie de l'émission BFM avec vous, Lorraine Goumeau. Bonjour aujourd'hui.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
On parle des attaques cyber, Lorraine.
Et oui, on va parler de cette potentielle prise en charge des rançons. En tout cas, c'est un chantier sur lequel travaille notre gouvernement. Et pour répondre à vos questions et à vos réactions, car elles ont été assez nombreuses la semaine dernière, on va faire le point avec Étienne Drouard. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Vous êtes avocat associé chez Hogan Lovells. C'est votre première avec nous sur ce format questions-réponses. Merci de vous y prêter.
Merci à vous.
On va vous demander... pour démarrer, où en est cette mesure sur laquelle le ministère de l'économie travaille? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un projet de loi? Où est-ce qu'on en est d'un point de vue juridique?
C'était introduit dans un projet de loi en mars, juste avant l'élection présidentielle, et puis des verrous ont sauté pour que les dispositions avancent, qu'un débat parlementaire ait lieu, après un rapport qui a été publié par Bercy et qui était favorable à cette mesure.
Bon, donc c'est pas encore fait.
C'est pas encore voté, c'est pas encore fait, et j'espère qu'il y aura un débat riche, parce que pour l'instant, il semble qu'on donne un blanc-seing au paiement des rançons, sans savoir à qui, pourquoi et dans quelles circonstances.
Alors, blanc-seing qui ne plaisait pas beaucoup à certains assureurs, mais vous me disiez en préparant cette interview que, en fait, il y a quand même des assureurs qui seraient plutôt pour cette mesure.
Mais en fait, ils ont eu besoin d'adopter une position de place, et la cyberassurance française est un peu en retard par rapport à l'anglo-saxonne, si j'ose dire. Et des assureurs qui, il y a un an, s'engageaient à ne pas payer les rançons, gros assureurs, se sont finalement retrouvés avec la communauté des assureurs pour se dire que développer la cyberassurance consistait à avoir une sécurité dans le paiement des rançons et donc les permettre en ayant une couverture législative.
Oui, on peut les citer, parce qu'on a beaucoup traité quand même ces sujets sur notre antenne. C'est AXA Generali qui était un peu tienne, on va le dire comme ça.
Oui, il s'était vraiment engagé à ne pas les payer, mais c'est un point concurrentiel qui va s'arbitrer maintenant.
J'ai une question d'auditeur sur BFM Business. Quand on voit que même Uber peut être compromis, comment imaginer que les PME peuvent être préparées à des cyberattaques? Il y a beaucoup d'inquiétudes des professionnels.
Oui. Le cas d'Uber, c'est une malveillance interne. Je crois qu'il y a très peu de choses qu'on puisse faire face aux malveillances.
Ex-employés, oui, effectivement.
Les malveillances externes, elles sont certaines dans leur probabilité. Et ce qu'on peut faire, c'est se préparer. Une cyberattaque va coûter cher en fonction de la préparation ou de l'impréparation qu'on a. C'est le nombre de jours où on sera indisponible, c'est le traumatisme vis-à-vis des clients. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est savoir qui appeler, choisir les conseils qui vont intervenir, qu'ils soient techniques, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient de communication. Se préparer, c'est aussi préparer ses collaborateurs à des scénarios d'attaque.
Des cellules de crise.
Des cellules de crise. Et c'est là où ce sujet est arrivé dans les conseils d'administration, parce qu'on peut être un très très bon chef d'entreprise et pas un bon gestionnaire de cellules de crise. Donc tout ça, c'est une révélation des rouages dans l'entreprise, des rapports de force internes entre la technologie, les opérations, la direction générale. Et il faut que l'entreprise soit alignée, parce qu'au moment du feu, c'est pas à ce moment-là qu'il faut savoir quelles seront les articulations internes.
On va revenir sur les questions d'auditeurs et d'auditrices qu'on a, mais Étienne, vous êtes spécialisé en cyber. Est-ce que les choses ont évolué au cours des dernières années? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, il y a un avant après Covid, avec l'essor du télétravail, est-ce que vous observez chez vos clients, chez les gens qui viennent vous consulter, un changement de mentalité?
Le changement de mentalité, il vient vraiment par l'expérience de l'accident. Et l'accident dans les PME, c'est de s'être fait détourner des fonds en payant un fournisseur qui n'était pas le fournisseur et qui était un pirate qui s'était fait passer pour le fournisseur. Ça, c'est vraiment le phénomène Covid 2021, 2022.
L'arnaque au président.
L'arnaque au président, se faire passer pour une personne qui représente une entreprise, échanger le RIB d'une entreprise et pour pouvoir détourner des fonds.
Mais ça veut dire qu'il faut l'expérience, le traumatisme de l'attaque pour se décider en tant qu'entreprise à se protéger.
Ça dépend de la taille des entreprises. Par exemple, le fait d'avoir une couverture d'assurance, c'est un petit peu comme avoir une assurance habitation, implique qu'il y ait des verrous sur la porte. Donc on va aussi auditer votre niveau de préparation pour pouvoir vous assurer, vous faire payer une prime qui est au bon niveau de votre préparation. 80% des grandes entreprises ont une cyberassurance, 8% des PME, 0,002% des TPE. Et bien sûr que les chiffres augmenteront, mais ce qu'on a vu augmenter surtout, multiplié par 20 en 2 ans, c'est le nombre d'attaques et le coût moyen par attaque pour une entreprise. Donc on ne peut faire que mieux, si j'ose dire, de jour en jour.
Voilà, 8% des PME, moins de 1% des TPE. Un chiffre sur lequel on peut vous faire réagir, c'est les cyberattaques par rançon logicielle. En 2021, on progressait de 43%. Chez les PME, la proportion de violation des données perso à cause des cyberattaques est de plus en plus importante. Ont-elles les moyens de se tourner vers des gens comme vous pour réagir?
Alors, ça coûte beaucoup moins cher de se préparer que d'écoper une fois que la crise a eu lieu. Il y a un vrai investissement, un vrai retour sur investissement entre la préparation et le coût du blocage. Et la question, c'est une question statistique. Si on n'est pas préparé, la cyberattaque qu'on va subir va nous ressembler. Ce qui va nous arriver, c'est exactement ce qu'on n'avait pas fait. Donc à chaque taille d'entreprise, son risque, mais le risque est aujourd'hui beaucoup plus important que le coût de préparation ou d'assurance.
Et si ici, dans ce témoignage, on sent l'inquiétude de cette entrepreneuse horreur qui nous dit il n'y a aucune certitude qu'en payant l'attaquant, on ne publiera pas les données. Il n'y a aucun engagement que l'attaquant fournisse la clé de déchiffrement une fois l'avoir payée. L'expérience montre que l'obtention de la clé de déchiffrement ne permet pas toujours de reconstituer l'intégralité des fichiers chiffrés.
Aurore a parfaitement raison. Il y avait une forme de déontologie des voyous d'il y a 4 ans qui assurait un service après-vente, parfois même un service par email où on avait plusieurs échanges pour pouvoir s'assurer que les clés de déchiffrement allaient bien être utilisées. Ça n'est plus le cas. C'est un marché où l'argent est facile, qui se démocratise et donc de moins en moins payer signifie retrouver une situation normale. Et c'est pour ça que face au chantage d'un blocage, le projet de loi qui prévoit de permettre à un assureur de payer une rançon est un petit peu une incitation au crime. Si je regarde 5 années de doctrine derrière nous sur les agences de sécurité, elles dissuadaient de payer les rançons. Et c'est vrai que c'est de moins en moins efficace pour libérer une entreprise. Donc les questions vont être sur la table du Parlement.
Une autre dimension de la post-attaque, c'est le dépôt de plainte. On a un auditeur qui nous écrit « Après une cyberattaque, la possibilité d'indemnisation sera conditionnée au dépôt d'une plainte par la victime. Comment et où déposer plainte et dans quel délai ?»
Dès que vous savez que c'est une cyberattaque et pas une panne informatique, vous pouvez déposer plainte. Vous pouvez avoir une trace d'intrusion, une trace d'exfiltration de données. Le commissariat de quartier, la gendarmerie sont là pour recevoir des plaintes. Il y a des offices centraux qui vont enquêter, mais le dépôt de plainte, il est simple, il doit être factuel, on n'extrapole pas ce qui est arrivé et il est très rapide. Donc dès que vous savez que vous avez été attaqué.
Et ça, ce remboursement, il serait vraiment conditionné à cette plainte ?
Oui, c'est normal et c'est une couverture pour les entreprises comme les assureurs. Déposer une plainte, c'est se positionner en victime et non pas en complice d'une personne qui vous prend de l'argent. Il y a des enjeux de lutte anti-blanchiment, de financement du terrorisme. Donc c'est la sauvegarde que prévoit le gouvernement. On va voir donc exploser le nombre de plaintes, d'affaires non résolues. Et là, je souhaite bon courage aux magistrats, formidables dans ce domaine, qui vont avoir plus de travail.
Ce témoignage et cette question. Je suis DAF d'une PME. Beaucoup de sociétés autour de nous sont victimes de cyberattaques. Nous réfléchissons à acheter de la crypto-monnaie. Alors, peu de gens autour d'elle peuvent la conseiller. Mais selon vous, est-ce une bonne idée d'acheter des bitcoins, des crypto-monnaies et comment faire?
Alors, c'est une bonne idée dans l'absolu, mais certainement pas pour payer une rançon. Vous pourrez toujours inscrire dans vos comptes le fait que vous avez subi une extorsion de fonds. Mais pour négocier et payer avec des pirates, il faut mieux passer par des prestataires qui ont des bitcoins, qui paieront pour vous et vous refactureront. Ça évite que vous ayez directement dans votre comptabilité blanchi un crime. Et il y a des pays, alors les États-Unis par exemple, le FBI recommande de passer par un tiers pour payer une rançon en bitcoin, parce que si l'entreprise le fait elle-même et qu'on lui reproche ensuite d'avoir financé une organisation criminelle, elle prendrait un grand risque. Donc utilisez vos bitcoins pour des espoirs d'investissement, mais ne faites pas ça vous-même, vous n'êtes pas du métier.
Oui, c'est une dimension importante, hein, parce que après, on se fait flaguer comme une entreprise qui finance le crime, et ça peut être dommageable aussi à long terme sur d'autres aspects du business.
C'est là où le texte français qui veut développer la cyberassurance va être quand même débattu. Je ne voudrais pas que dans 3 ou 4 ans, un État étranger reproche à une entreprise française qui a payé une rançon, qui a porté plainte, d'avoir financé le terrorisme tel qu'un autre État pourrait le lui reprocher. Et on a déjà vu dans le passé qu'il y a un peu de concurrence législative entre les pays sur ce point, donc j'espère que le débat sera riche et approfondi.
Mais merci beaucoup de nous avoir aidés, d'avoir répondu à quelques-uns de nos auditeurs. On,